Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remporté jeudi une grande victoire contre la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila, avec la destitution d'un des piliers de cette majorité, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Eddy Issango et notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba. Dans l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, a été désigné sans surprise jeudi candidat à la présidentielle de mars 2021 par les 17 partis qui composent sa majorité présidentielle. Notre correspondant Arsène Séverin nous en parlera plus en détail. Au Ghana, le candidat de l'opposition, John Mahama, a annoncé jeudi soir qu'il contestait sa défaite à la présidentielle face à Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat selon les données officielles. M. Mahama a rejeté aussi les résultats provisoires des législatives. « Nous n'acceptons pas ces résultats frauduleux et nous prendrons toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice », a-t-il encore dit. Selon la commission électorale, mercredi, Nana Akufo-Addo a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour John Mahama. Le président américain Donald Trump a frappé jeudi un nouveau coup diplomatique en obtenant du Maroc un accord historique de normalisation avec Israël dans le cadre du plan de paix américain au Moyen-Orient et en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision fermement condamnée par les indépendantistes sahraouis. Le Polisario et le gouvernement sahraoui condamnent dans les termes les plus forts le fait que le président américain sortant, Donald Trump, attribue au Maroc ce qui ne lui appartient pas, à savoir la souveraineté sur l'ancienne colonie espagnole, a indiqué le ministère sahraoui de l'information dans un communiqué. Nous y reviendrons avec Abdelrahman Dia et Eric Maniraktidza. Somalie, les États-Unis ont annoncé jeudi avoir mené deux frappes aériennes contre des experts en explosifs des djihadistes Shabab affiliés à Al-Qaïda avant le retrait annoncé de la majorité des forces américaines au sol. Le chef des forces spéciales en Afrique, le général Dagwin Anderson, a déclaré « Cette frappe devrait démontrer à tout ennemi que nous soutenons nos partenaires et que nous défendrons vigoureusement nos forces ainsi que nos partenaires au cours de ce repositionnement et des futures opérations. » Covid-19, un comité d'experts indépendants a recommandé à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, d'autoriser un premier vaccin développé par le duo Pfizer-BioNTech. Le feu vert de l'agence devrait suivre dans les prochains jours et la vaccination commencer la semaine prochaine contre la maladie qui a déjà fait plus de 285 000 morts dans le pays le plus touché du monde. Le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie Saoudite ont eux déjà autorisé sa mise sur le marché. La France a annoncé jeudi un prudent déconfinement pour le 15 décembre, remplacé par un couvre-feu qui s'appliquera même le 31 décembre. En recevant le Nobel de la paix à distance à cause de la crise alimentaire, le Programme alimentaire mondial s'est inquiété jeudi d'une pandémie de la faim aux effets, selon lui, potentiellement plus graves que le Covid-19. Quelques 270 millions de personnes s'acheminent vers la famine, a prévenu le chef du PAM, l'Américain David Beasley. L'administration Trump a procédé jeudi à une nouvelle exécution malgré la pandémie et les appels à... La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale, proche de l'ancien président Joseph Kabila, a été déchue au terme d'un vote sur une pétition. Le vote a eu lieu en pleine tension politique entre le camp du président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. Le point avec Eddy Issangou.
281 députés ont voté pour la déchéance de Jeanine Mabunda sur les 483 qui avaient pris part au vote. D'autres membres du bureau de l'Assemblée ont également été déchus. La pétition avait été signée par 268 députés. Le pays est en pleine crise politique. Le président Félix Tshisekedi a annoncé le 6 décembre une rupture avec les FCC de Joseph Kabila. Il entendait constituer une nouvelle majorité, l'Union sacrée pour la nation, affirmant que la majorité kabiliste s'était effritée. Le vote en faveur de la pétition semble lui donner raison. M. Tshisekedi, élu fin 2018, avait formé une coalition avec les FCC. Celle-ci a été émaillée des crises. La dernière en date, la nomination des trois juges constitutionnels par le président Tshisekedi, une mesure considérée par les FCC comme une violation des constitutions. Félix Tshisekedi s'est aussi passé des services du Premier ministre issu du FCC en nommant des mandataires sans la signature de celui-ci comme l'exige la Constitution. Plusieurs membres du FCC ont rejoint les camps du président congolais. M. Tshisekedi a promis de nommer un informateur pour formellement identifier la nouvelle majorité. Mais le Premier ministre devra avant tout démissionner.
Au Congo-Brazzaville, 17 partis de la majorité au pouvoir ont appelé le président Denis Sassou Nguesso à se déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2021. Selon Pierre Moussa, président de cette plateforme, Sassou Nguesso est le seul qui réunit les conditions pour être président. Explication d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans un échange avec les médias, le secrétaire général du PCT, le parti présidentiel, Pierre Moussin, a déclaré que leur candidat à la présidentielle de mars 2021 était Denis Sassou Nguesso. Il est le seul d'entre nous qui réunit tous les atouts pour être président de la République, a-t-il renchéri, parlant au nom des 17 partis qui composent la majorité au pouvoir. Pierre Moussin a indiqué qu'ils étaient en train de faire les pieds et des mains pour convaincre le chef de l'État à se déclarer candidat. Désigné en fin 2019 par ses partisans du PCT, Sassou Nguesso, 77 ans, n'a toujours pas répondu à cet appel, encore moins à celui des partis et associations de la majorité qui redoublent d'ardeur chaque jour. Mais selon les analystes, le chef de l'État devrait accepter sans trop forcé pour un deuxième mandat de 5 ans. Entre 2002 et 2016, il a effectué 2 mandats de 7 ans. Alors que l'opposition continue de contester les conclusions de la concertation politique sur cette élection, le gouvernement a déjà commencé les préparatifs du scrutin. Interpellé par les opposants à se prononcer sur cet impact politique, Denis Sassou Nguesso pourrait en dire un mot le 19 décembre prochain lors de son adresse à la nation. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a frappé jeudi un nouveau coup diplomatique en annonçant que le Maroc allait normaliser ses relations avec Israël, comme l'ont déjà fait récemment 3 autres pays arabes. Monsieur Trump a aussi indiqué que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Abdelrahman Diak.
Une avancée historique, a écrit sur Twitter le président américain. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques, un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient. Rabat a confirmé un peu plus tard la reprise prochaine de ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Lors d'un entretien téléphonique avec M. Trump, le roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que son pays allait reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec Israël, selon un communiqué du Palais Royal. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également salué un accord historique. Donald Trump a annoncé dans le même temps sur Twitter qu'il avait signé jeudi une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition sérieuse, crédible et réaliste du Maroc sur le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et pérenne afin d'assurer paix et prospérité, a-t-il écrit. Mohamed VI a de son côté salué une prise de position historique des États-Unis.
Ce nouvel accord, annoncé jeudi à Washington par le président Trump, a suscité plusieurs réactions, de même que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Eric Manirakiza.
J'ai toujours cru en cette paix qui se concrétise aujourd'hui devant nos yeux. Je veux remercier le président Trump d'avoir mené ces accords et remercier le roi du Maroc, Mohamed VI, pour cette décision historique de faire la paix avec Israël, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir avant d'allumer une bougie pour la fête juive de Hanouka. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a qualifié de péché historique cet acte de normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Son porte-parole Hazem Kassem estime que cet acte ne sert pas la cause palestinienne et encourage l'occupation à continuer de nier les droits de son peuple. En revanche, le roi du Maroc, Mohamed VI, a assuré que ces mesures n'affectaient en aucune manière l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, réaffirme le communiqué du Palais Royal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué l'accord, le qualifiant de pas important pour la région. Le roi du Maroc a également transmis ses sincères remerciements au président américain pour sa position sur le Sahara occidental, une de ses colonies espagnoles que se disputent depuis plusieurs décennies Rabat et les indépendantistes du Front Polisario soutenus par l'Algérie. Il a salué une position constructive des États-Unis qui vient renforcer la dynamique de la concrétisation de la marocanité du Sahara. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une position inchangée sur le Sahara occidental. Selon son porte-parole, Stéphane Dujarric, la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Le message du chef de l'ONU aux deux parties est d'éviter toute action qui pourrait aggraver encore une situation tendue. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, ne veut pas réagir pour l'instant. L'autre réaction très attendue est celle de l'Union africaine.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, le secteur de l'enseignement a consommé environ 1044 milliards de dollars de janvier à fin novembre 2020 sur des prévisions d'environ 1766 milliards de dollars, soit un taux d'exécution de 59,28%. Selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, ces dépenses concernent l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, la recherche et le développement, entre autres. Les États d'Afrique subsaharienne ont vu leur perspective de notation négative confirmée par l'agence de notation Fitch Ratings. Seule la Côte d'Ivoire est sur des perspectives positives. La région fait face à une hausse de la dette conjuguée à des pressions budgétaires qui pèsent sur la liquidité. Fitch prévoit que la dette publique arrivera à des niveaux inquiétants en 2021 et 2022, période pendant laquelle sept pays de la région auront des dépenses d'intérêt public équivalent à 20% ou plus de leurs revenus.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'Allemand Jason Osborne et la Sud-Africaine Ashley Molman sont devenus les deux tout premiers champions du monde de cyclisme virtuel, nouvelle discipline en vogue, à mi-chemin entre e-sport et le vélo traditionnel. Au terme des 50 km de course organisée par l'appli de cyclisme Switch, Jason Osborne, rameur de formation et médaillé plusieurs fois en aviron, a créé la surprise en s'imposant au terme d'un effort de 1h05. De son côté, le jour de ses 35 ans, Molman, déjà champion d'Afrique du Sud sur route cette année, a parcouru la distance en 1h13. Dans les courses virtuelles, les cyclistes s'affrontent chacun chez eux, depuis leur salon ou leur garage, sur un vélo connecté à un home trainer,
lui-même relié à un écran d'ordinateur grâce à la plateforme en Suisse. Les difficultés de la course, dénivelés, changements de terrain sont fidèlement reproduites, rendant la discipline réaliste. Les mondiaux en salle d'athlétisme prévus à Nanjing, en Chine, déjà reportés de mars 2020 à mars 2021, sont cette fois repoussés à mars 2023 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé World Athletics. Les prochains championnats du monde en salle sont prévus à Belgrade en mars 2022. Alors que les mondiaux indoor se tiennent habituellement tous les deux ans, les années paires, il devrait donc y avoir trois éditions en trois ans, Belgrade en 2022, Nanjing en 2023, et dans un lieu pas encore déterminé en 2024, après un trou de 4 ans depuis ceux de Birmingham en 2018. Football, Naples a disputé hier son premier match dans son stade Diego Armando Maradona, rebaptisé en l'honneur de la star argentine décédée le 25 novembre et qui a porté les couleurs du Napoli entre 1984 et 1991. La première rencontre de cette nouvelle ère a donné lieu à un match nul 1-1 entre Naples et la Real Sociedad, qui permet aux deux formations de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Maradona, qui a conduit Naples à ses deux Scudetti en 1987 et 1990 et à une victoire en Coupe de l'UEFA en 1989, s'est éteint le 25 novembre à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Une minute de silence a aussi été observée en hommage à l'attaquant international italien Paolo Rossi, décédé hier à l'âge de 64 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale, membre du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila, a été démise de ses fonctions à l'issue du vote de la pétition contre elle, initiée par les députés membres du CAP pour le changement CASH du président Félix Tshisekedi. Un vote qualifié d'historique puisqu'il symbolise davantage la fin de la coalition entre M. Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. De Kinshasa, notre correspondant Valdo Simon Yamba.
Yes à l'Assemblée nationale de la RDC après le comptage des votes. Le oui des pétitionnaires du CASH, les CAP, pour le changement du président Tshisekedi l'a emporté avec 281 voix contre 200 face au FCC, le Front commun pour le Congo, de l'ancien président Joseph Kabila. Pour Daniel Mbao, député national du mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba, membre de l'AMOKA, signataire de la pétition demandant la démission de la présidente du Parlement, ce vote est une expression de la démocratie qui marque un tournant historique en RDC.
Aujourd'hui, nous pouvons célébrer le basculement de la majorité. Nous pouvons quasiment tourner la page et dire que le chef d'État juridiquement, il est maintenant fondé à pouvoir nommer son informateur.
Pour Papi Montezolo, président de la Dynamique Congo, parti membre de la coalition des démocrates et du Front commun pour le Congo, de l'ancien président Joseph Kabila, ces changements supposés de la majorité doivent cette fois faire ses preuves face à d'autres épreuves.
Beaucoup de gens ont eu à relever certains greffes vis-à-vis de la présidente. Donc, tout membre du FCC, comme des cachés ou je ne sais, de l'opposition, pouvait pas enclencher une démarche parlementaire contre la présidente et ça pouvait aboutir. Il faut que nous arrivions à plusieurs tests, tels que l'élection d'un nouveau bureau, peut-être une motion contre le gouvernement. C'est à ce niveau-là que nous pouvons comprendre que les choses ont bougé.
L'analyste politique Mpembe Nzale Bazin, coordonnateur de la dynamique Les changements, c'est maintenant, lui, salue la prise de conscience des députés nationaux.
Ils ont compris que les deux ans à l'Assemblée nationale, c'était des ans de cachet. Maintenant que les votes viennent de se réaliser, ils ont pris conscience de démettre les bureaux pour qu'un nouveau bureau soit constitué. Nous félicitons les députés et nous allons demander au nouveau bureau de travailler pour l'intérêt du peuple et d'interpeller les mandataires, d'interpeller les ministres qui vont se conduire dans leur marche pour l'intérêt de la République.
Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Au Mali, après un net recul de plusieurs mois du virus, La seconde vague de COVID-19 fait grimper le nombre d'hospitalisations et de décès. Dans les hôpitaux du pays, les agents de santé sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie qui a fait 156 décès depuis son apparition au Mali. Jeudi, en Conseil des ministres, le gouvernement a exigé le port du masque, l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, ainsi que la rotation et la réduction du personnel dans l'administration publique. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Au centre de prise en charge des malades de la COVID-19 de l'hôpital du Mali, les bancs des visiteurs ne désemplissent pas. Les proches des patients hospitalisés et les personnes venues pour se faire tester dans ces centres spécialisés ont pris conscience de la hausse des cas liés au coronavirus. Docteur Mouribo Doumbia, président de l'Ordre des médecins du Mali.
Que la situation est de plus en plus inquiétante dans les structures de santé à Bamako parce que nous n'avons plus de place disponibles pour les cas graves. Même les cas symptomatiques aujourd'hui sont laissés à la maison. Tout ça expose encore la population.
Par la voix de son porte-parole, le gouvernement malien a appelé les Maliens au respect strict des mesures barrières. Maître Aruna Touré.
C'est le port du masque en public obligatoire pour chaque citoyen de porter le masque en toutes circonstances et en tout lieu. L'interdiction des rassemblements publics de plus de 50 personnes. Le respect des règles de distanciation physique dans les véhicules de transport en commun. Le nombre des cas attendus pour le mois de décembre, seulement le mois de décembre 2020, sur la base d'estimation des cas enregistrés lors des trois dernières semaines, est de 1829, dont 274 cas graves et 91 cas critiques.
Parmi les mesures prises par le gouvernement, il y aura une collaboration avec la Croix-Rouge. Des équipes qui seront déployées dans les marchés afin de sensibiliser les usagers. Dr Fanta Sibi, ministre du Développement Social et de la Santé.
Les cas sont concentrés à Bamako. Bamako est alentour, en frôlant un peu la région de Koulikoro, parce que c'est là les cas graves. Les cas, parmi les cas graves, quelques-uns qui vont nécessiter une réanimation. Bien sûr, il y a d'autres qui vont nécessiter de l'oxygénothérapie. Et là aussi, il y a des lits. Mais quand on prend globalement, pour vous mettre à l'aise sur l'ensemble du Mali, nous avons à peu près 900 de lits qui sont disponibles pour la prise en charge de ces cas de COVID.
Malgré tout, très peu de Maliens choisissent de se faire tester, car beaucoup ne croient toujours pas à l'existence du coronavirus. C'est pour cela que le centre de santé communautaire de Yirimajo a opté pour la sensibilisation. Docteur Ibrahima Sissé, directeur technique de ce centre.
Que chacun se protège et protège d'autres par rapport à cette pandémie qui est une triste réalité. Et puis tout ce que nous avons comme morts et malades, nous devrions changer nos comportements. Éviter les rassemblements, sensibiliser les prochains pour que chacun accepte, chacun de son côté, où qu'il soit un relais pour les agents de santé. Elle est réelle, elle existe, elle fait des dégâts.
Selon le ministre porte-parole du gouvernement, une commission multi-acteurs sera mise en place afin de créer une synergie d'action face à la maladie à coronavirus sous l'égide du Premier ministre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Sénégal, une députée est décédée du COVID-19 ce jeudi et plusieurs cas suspects ont été signalés au sein de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution a d'ailleurs annoncé un huis clos total pour le reste des sessions plénières. Cette situation, qui a eu lieu en pleine période de vote du budget par les députés, interpelle aussi bien les autorités sanitaires que les populations. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Le décès de la députée Marie-Louise Diouf est tombé comme un énième rappel à la vigilance au moment où une deuxième vague se confirme. Les populations qui s'inclinent devant la mémoire de la parlementaire estiment que la propagation du virus à un si haut niveau est le reflet du relâchement qui se passe partout dans la société.
Et c'est comme si notre vraie nature nous a rattrapé. Et notre vraie nature nous a rattrapé au niveau institutionnel et au niveau aussi social et au niveau des populations de base. Donc d'abord, ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport international de Dias, où des gens sont venus avec des faux tests. Il y a eu même des gens qui appartiennent à l'État qui ont organisé de très grandes fêtes. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé ne démontre rien d'autre que notre nature, entre guillemets, de Sénégalais, qui fait toujours du laisser-aller.
En plus de ce décès, plusieurs cas suspects sont annoncés au sein de l'Assemblée nationale. Le député Barambaké Doli a même affirmé qu'une vingtaine de ses collègues parlementaires étaient infectés et pris en charge. Une situation qui a poussé les autorités à prendre les devants, comme le confirme le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.
Ils ont réadapté effectivement rapidement la stratégie de leur séance en allant tout de suite au huis clos. On a juste une équipe réduite du ministre qui passe, plus le vice-président et les présidents de commission. Vraiment un schéma réduit à l'extrême pour permettre de respecter les mesures barrières. Et je vais recommander à ce que, conformément à la stratégie nationale, qu'on surveille l'ensemble des députés et que l'on ouvre une possibilité de tester tous les contacts qui sont symptomatiques. Mais on peut aussi envisager de tester effectivement les députés qui le souhaitent.
S'appuyant sur la situation alarmante qui prévaut à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a de nouveau insisté sur la nécessité de respecter les mesures barrières pour conserver les acquis.
Il y a toujours des poches d'inefficience. Des poches d'inefficience, c'est des récalcitrants qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, sont dans le déni. Mais je suis persuadé que le Sénégal a ses ressorts de mobilisation qui lui permettent, quand un enjeu est un enjeu national, comme c'est le cas aujourd'hui, de se lever comme un seul homme pour dire qu'on stoppe le virus.
À quelques jours des fêtes de fin d'année, la tâche s'annonce délicate pour les autorités sanitaires qui espèrent convaincre les populations de respecter les mesures barrières. En cas de non-respect des mesures édictées, le retour de restrictions plus sévères est fortement envisagé. Céline Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
La Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, connaît une recrudescence des cas de coronavirus et son gouverneur a ordonné un confinement régional qui n'est pas du goût de certaines entreprises, estimant cette mesure injuste. Reportage d'Elizabeth Lee à Los Angeles, récit de Mohamedou Oumfa.
Partout, des signaux indiquent que la vie en Californie est à nouveau verrouillée. Que ce soit sur ordre du gouverneur ou sur une décision locale, les habitants de certaines des régions les plus peuplées de la Californie doivent rester à la maison, cette fois-ci même pendant les vacances de Noël. Cet homme, qui préfère ne pas révéler son nom, se faisant appeler Joe, est livreur pour un restaurant du nord de la Californie. Il s'agit d'eux. Je me sens mal pour eux. Selon la nouvelle mesure, les restaurants doivent fermer leur salle à manger et ne servir que les commandes à livrer ou à emporter. Certains restaurateurs disent non. Andrew Gruel est propriétaire et chef cuisinier du Slabfish Restaurant.
We're not going to abide by those orders.
Nous n'allons pas respecter ces ordres. Nous ne pouvons pas survivre avec des plats à emporter et des livraisons, car nous donnons 30 centimes pour chaque dollar à la livraison grâce aux applications de la Silicon Valley. De nombreux propriétaires de petites entreprises estiment que cette obligation de rester à la maison est injuste. Les magasins de détail peuvent toujours fonctionner à une capacité de 20% et l'industrie du divertissement peut continuer. Par contre, les salons de manucure et de coiffure ne peuvent pas. Le coiffeur Lugar Sarenuso a reçu une formation pour maintenir un espace aseptisé. Il avait déjà respecté deux ordres de fermeture depuis mars, mais pas cette fois-ci.
Ce n'est pas parce que nous pensons que le COVID n'est pas réel. Nous pouvons prendre toutes les précautions. Nous voulons faire toutes ces choses. Mais lorsque nous voyons les grandes entreprises continuer à travailler, même si les employés n'ont pas la formation que nous avons reçue, il nous est un peu difficile de continuer à nous conformer.
Certains chefs d'entreprise disent qu'il est également difficile de suivre les ordres du gouverneur Gavin Newsom, qui a assisté en novembre à une énorme fête d'anniversaire après avoir dit aux Californiens de ne pas organiser de telles réunions. D'ailleurs, Gavin Newsom, gouverneur de la Californie, s'est excusé plus tard. Je tiens à vous présenter mes excuses car j'ai besoin de prêcher et de pratiquer, non pas prêcher et ne pas pratiquer. Newsom a déclaré que la forte augmentation des hospitalisations et l'augmentation des ressources l'ont obligé à ordonner aux Californiens de rester à la maison. Ce cantonnement va durer au moins 3 semaines et commence dans l'une des 5 régions quand la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux tombe en dessous de 15%. Russell Bohr est un médecin pulmonaire et des soins intensifs dans un hôpital de Los Angeles. Le problème est que nous n'avons pas assez de personnel pour s'occuper de tout le monde. Et c'est vraiment à ce moment que les choses deviennent dangereuses, pas assez de personnel pour s'occuper de tous ceux qui sont très malades. Alors que les petites entreprises anticipent les retombées économiques du verrouillage, les médecins se préparent à ce que les vacances de Noël vont apporter. Le gouverneur Newsom dit qu'il ne prévoit pas une autre vague de COVID-19 dans son État parce que les vaccins sont déjà en route.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.